Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Nous avons là le seul récit biblique sur l'enfance de Jésus. La Bible ne dit pas grand-chose sur l'enfance de Jésus, et il est donc important de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce que l'on peut dire sur l'enfance de Jésus: Jésus a été un enfant comme les autres, dans le sens qu'il a eu besoin de grandir physiquement, intellectuellement, tout en étant différent des autres par sa nature divine. Jésus n'a fait aucun miracle lorsqu'il était enfant. Jean nous dit que son premier miracle eut lieu aux noces de Cana quand il a changé l'eau en vin. On peut ajouter quelques précisions sur l'enfance et la famille de Jésus. Jésus a été l'aîné d'une famille nombreuse. Ses frères et ses sœurs sont mentionnés dans Marc chapitre 6 verset 3. Marie a donc eu des enfants avec Joseph. Elle n'est pas restée vierge. Il n'y a plus de mention sur son père Joseph après ce passage de Luc chapitre 2. Joseph est donc probablement mort dans les années qui ont suivi. Et puis on sait que Jésus a exercé le métier familial, celui de charpentier. Ce que l'on peut dire aussi avec ce texte que nous avons lu: Jésus a attendu le temps de Dieu 30 ans avant de commencer la mission qui était la sienne. Il a donc pris le temps de se préparer. Il a pris le temps d'être un enfant, puis d'être un adolescent. Si Jésus a pris le temps d'être et de rester un enfant, ne brûlons pas les étapes avec les nôtres. Jésus, et ça c'est important, savait qui il était à l'âge de 12 ans. Jésus dit à Joseph, son père, et à Marie: « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Jésus ne dit pas « notre père », il dit « mon père ». Jésus n'est pas devenu Dieu. À l'âge de 30 ans, ça lui aurait pris. Il n'a pas été fait Dieu. Dieu s'est fait homme, mais Jésus ne s'est pas fait Dieu. Il est Dieu. Dès que Jésus a eu conscience d'exister, il a su qui il était. Et puis, on peut dire avec ce texte que Jésus savait dans quel but il était venu et quelle était sa mission. Avec la déclaration de Jésus « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », nous comprenons aussi qu'il est venu pour un but. Et quel but ? Accomplir le plan de la rédemption par sa mort substitutive, à notre place. On peut penser que la fête de Pâques, à laquelle il avait assisté, avait suscité en lui quelque chose de fort. Ce texte nous raconte la venue de la famille de Jésus à Jérusalem pour plusieurs jours. Faire ce voyage annuel de Nazareth à Jérusalem n'était pas un petit voyage. C'était près de 100 km parcourus à pied pour aller de la Galilée jusqu'à Jérusalem en Judée. Il le faisait probablement en convoi, avec beaucoup de gens du village, beaucoup de gens aussi de la famille, je suppose. Il fallait environ 5 jours aller, 5 jours pour revenir. Il faut ensuite ajouter les jours passés à Jérusalem. Alors combien de temps ils ont passé ? Il y avait la fête des pains sans levain qui durait une semaine, puis il y avait la fête de Pâques. En principe, on venait pour toute la semaine. C'était un peu les vacances annuelles. Sur le chemin du retour, à un moment donné, probablement le soir, au moment de se retrouver pour le repas, Joseph et Marie vont réaliser que Jésus n'est pas avec eux. Ce fut alors la panique. Ils retournèrent à Jérusalem et le retrouvèrent au bout de 3 jours, trois jours à partir du départ, trois jours à partir du constat de son absence. En tous les cas, soyons indulgents avec Joseph et Marie. Et on peut noter deux circonstances atténuantes envers Joseph et Marie. D'abord, Jésus ne les avait jamais habitués à ce genre de surprise. Et nous comprenons que ces pèlerinages étaient un immense convoi du village et de la famille. Je voudrais considérer l'attitude de Joseph et de Marie, qui, après quelques sueurs froides, ont su trouver Jésus. Plus exactement, je voudrais considérer les étapes par lesquelles ils sont passés, afin de pouvoir retrouver Jésus. Vous aussi, si vous voulez trouver Jésus, le rencontrer, il vous faudra passer par ces mêmes étapes. La Bible déclare que celui qui le trouve, trouve la vie. Et c'est bien là mon objectif, en m'adressant à vous, vous aider à trouver Jésus-Christ, à le rencontrer et à le recevoir comme sauveur. Premièrement, Joseph et Marie ont cessé d'être distraits. Pendant plusieurs jours, Joseph et Marie, qui venaient d'une bourgade de quelques centaines d'habitants, en ont pris plein les yeux à Jérusalem, dans une ville bondée de monde, en pleine effervescence, avec des animations de tous les côtés, des stands et des vendeurs à tous les coins de rue. Je les imagine en train d'acheter des choses qu'ils ne trouvaient pas en Galilée, mangeant des spécialités ou des choses qu'ils ne mangeaient pas habituellement, visitant chaque endroit de la ville, faisant des rencontres insolites. Sur le chemin du retour, Joseph et Marie devaient encore être sous l'émotion de ces quelques jours passés à Jérusalem. Avec leurs amis, ils se racontaient ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient marqué, ce qu'ils avaient découvert. Ils étaient encore distraits par tout ce qu'ils avaient vu. Tant qu'ils étaient dans cet état-là, distraits, accaparés par ces choses, ils ne pouvaient prendre conscience de la situation et de l'absence de Jésus. Dans le texte que nous avons lu, il est écrit « Ils ne s'en aperçurent pas de l'absence de Jésus parce qu'ils étaient accaparés par d'autres choses. » Je voudrais vous dire aussi que vous aussi, vous devez passer par cette étape qui consiste à se dégager de l'inutile, du futile, de l'accessoire qui envahit nos vies et qui nous distrait, du superficiel qui nous détourne de l'essentiel. Notre vie est envahie par des choses inutiles, sans importance, superflues, qui ont pour effet d'empêcher les hommes de se concentrer sur l'essentiel. Les préoccupations de certains sont uniquement sur ce qu'ils vont faire le week-end, sur ce qu'ils vont faire pour leurs prochaines vacances, sur leurs activités de la journée, sur leur nourriture, sur leur maison, sur leur compte en banque. Jésus a été catégorique. Ceux qui sont préoccupés par ces choses-là vivent comme des païens. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » La nourriture, le logement, la santé sont des choses importantes, mais l'éternité, la destination de notre âme, sont encore plus importantes. Et il est absolument indispensable un jour de s'arrêter et de se poser les bonnes questions. Suis-je en règle avec Dieu? Si je meurs, je vais où? Quelle place a Jésus dans ma vie? Jésus est-il présent dans ma vie? Cette période d'épidémie et de confinement a au moins l'avantage d'aider certaines personnes à sortir de ce qui les distrait et de les amener à s'interroger sur l'éternité, sur la destination de leur âme. Plusieurs personnes m'ont dit ces derniers temps que la situation actuelle les oblige à revoir leurs priorités. Le prince de ce monde, Satan, accapare l'esprit des gens avec toutes sortes de choses inutiles, matérielles, accessoires, parce qu'il ne veut pas que les hommes se posent les bonnes questions, celles par rapport à l'éternité. Une deuxième étape. Marie et Joseph ont cessé de croire que, de supposer que. Il est écrit, Joseph et Marie croyaient que Jésus était avec leur compagnon. Au moment de partir, ils ont dû se poser la question, où est Jésus? Comme ils savaient qu'il était sage et responsable, ils ne se sont pas inquiétés, et ils se sont dit, il doit être avec un tel. Ils se sont dit que, ils ont cru que, ils ont pensé que. C'est quand ils ont cessé de croire que, qu'ils ont pu se mettre à le chercher. Tant qu'ils pensaient que Jésus était avec eux dans le convoi, ils ne le cherchaient pas et ne se préoccupaient pas de le trouver. Dans la Bible, il y a beaucoup d'erreurs commises parce que certains ont cru que, d'autres se sont dit que. Et aujourd'hui encore, Beaucoup de personnes sont sans Jésus-Christ parce qu'elles pensent que, parce qu'elles croient que. Certains pensent que Jésus est avec eux parce qu'ils ont été baptisés. Ce n'est pas de la foi, c'est de l'illusion. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été baptisé que Jésus-Christ sera dans sa vie. Jésus vient dans la vie de celui qui se tourne vers lui, qui se repent de ses péchés. Certains pensent que Jésus n'est pas très loin d'eux, même avec eux, parce qu'ils ont une religion et qu'ils pratiquent de temps en temps. Non, c'est encore une fausse croyance. C'est même de la superstition. Jésus n'a que faire de la religion. Ce qui lui permet de vivre en nous, c'est la foi authentique dans qui il est et ce qu'il a fait sur la croix. Certains pensent qu'ils ont fait le bien, et parce qu'ils ont fait le bien, Dieu leur sera favorable. Encore une fausse croyance trompeuse. L'évangile est catégorique. Il n'y a point de juste. Tous sont péchés. Le bien que je fais ne peut effacer le mal que j'ai fait. C'est une coupable illusion de penser que notre moralité ou notre pratique du bien nous rend dignes du salut de Dieu. Ceux qui pensent ainsi sont dans l'illusion et doivent prendre conscience de ce mensonge. Certains croient que l'enfer n'existe pas et que tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas le langage de la Bible. Ce n'est pas le langage de Jésus-Christ. Jésus a parlé de condamnation éternelle pour ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Il faut vite sortir de cette illusion. Comme Joseph et Marie ont pris conscience de ce qu'ils avaient pensé jusque-là était faux, il est important de sortir de ces fausses croyances et de prendre conscience de la situation. Jésus n'est pas dans votre vie. Votre péché vous condamne. Il faut prendre conscience que vous êtes pécheur, perdu. Sortez de ces croyances qui vous trompent et procurent une fausse sécurité. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Français pensaient être en sécurité avec la ligne Maginot, cette ligne de défense fortifiée construite près de la frontière allemande. Mais l'armée allemande ne s'est pas embarrassée. Elle l'a contournée en passant par la Belgique et la France fut occupée. Il y a des croyances illusoires qui produisent des fausses sécurités. Ne vous y trompez pas, dit souvent la Bible. Le péché a atteint tous les hommes. Personne ne peut prétendre être juste devant Dieu. La solution nécessite cette prise de conscience de son état. Troisièmement, Joseph et Marie ont commencé à chercher Jésus. Probablement le soir, ne le voyant pas arriver pour le repas, ils ont commencé à le chercher. Ils sont allés voir là où ils pensaient le trouver, puis ils ont élargi leur champ de recherche. Ils ont dû faire le tour du convoi pour finalement en arriver à ce constat. Il est resté à Jérusalem. J'imagine l'angoisse montée chez Marie. On a tous connu cela un jour ou l'autre avec nos enfants. Il y a quelque temps, nous visitions le château de Versailles. C'était archibondé. Et à un moment donné, une maman a crié violemment le prénom de sa fille parce qu'elle ne la voyait plus. On a ressenti toute l'angoisse dans le cri de cette maman et puis dans son regard. Elle n'a pas regardé si elle dérangeait, ce que provoquait son cri. Mais je vous rassure, elle l'a vite retrouvée. Quand ils l'ont retrouvée, Marie a dit à Jésus, « Nous te cherchions avec angoisse. » Lorsque Paul a prêché l'évangile aux Athéniens, il l'a déclaré ceci, dans Actes 17, au verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, et il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu a voulu que les hommes le cherchent. La responsabilité de tout individu est de le chercher avec son cœur, avec vérité, avec sincérité, avec empressement. La Bible exhorte les hommes à chercher Dieu et plus exactement la personne de Jésus. Mais elle ajoute que celui qui le cherche de tout son cœur le trouvera. Il n'y aura personne en enfer qui puisse dire « J'ai cherché Dieu de tout mon cœur et je ne l'ai pas trouvé ». Et j'ajoute que curieusement au ciel, il y a des personnes qui pourront dire « Je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a trouvé et qui m'a sauvé ». Écoutez le conseil du prophète Ésaïe, cherchez-le pendant qu'il se trouve, pendant que c'est possible de le trouver. Quatrièmement, Joseph et Marie ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour pour retourner à Jérusalem. Leur attitude est symbolique d'une démarche essentielle et inévitable pour être sauvés et pour rencontrer Jésus. Cette démarche essentielle s'appelle la repentance ou la conversion. Il est impossible de découvrir Jésus comme le Sauveur, comme l'ami, comme le Seigneur, sans repentance, sans conversion, sans demi-tour. Parfois, c'est après avoir commencé à le découvrir, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ont fait demi-tour après avoir rencontré Jésus. Mais c'est toujours une expérience incontournable. Jésus, on ne peut pas le rencontrer si on reste sur certaines voies. Peut-être que la route sur laquelle vous êtes ne vous paraît pas si mauvaise, mais la Bible dit que telle voie peut paraître droite et bonne, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je me rappellerai toujours cette période où j'étais en train de venir à Jésus-Christ et je devais me décider, mais je ne prenais pas de décision. Et dans cette période d'indécision, je me suis retrouvé en boîte de nuit. Et à un moment donné, dans cette soirée, dans cette nuit, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas ta place. Ce n'est plus ta place. » Et ce soir-là, j'ai décidé de faire demi-tour. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans une boîte de nuit. Et cette décision a commencé à débloquer la situation. Tant que je ne me décidais pas, le processus de découverte de Jésus-Christ se bloquait. La repentance est cette expérience qui consiste à prendre conscience de son péché et à s'en détourner. Elle est indispensable pour découvrir Jésus-Christ. Je ne sais quelle voie vous devez quitter, celle des beuveries, celle de l'immoralité, celle de l'occultisme, celle de la religion, celle du mensonge, celle de la haine, ou tout simplement celle d'une vie sans Christ. Mais je sais que vous devez faire demi-tour. Et puis cinquièmement, ils l'ont trouvé. Mais ils l'ont trouvé au bon endroit. Ils ont manifestement mis du temps à cause de la foule qui devait être encore très nombreuse à Jérusalem. Mais ils ont fini par le retrouver. C'est finalement au temple qu'ils l'ont retrouvé, pas au camping, ni au square, ni au marché, mais dans le temple. Nous qui avons un œil extérieur, détachés de toutes leurs angoisses, nous aurions tendance à dire c'est évident que c'est là qu'ils allaient trouver. Mais dans leur contexte, avec l'angoisse qui les empêchait d'être lucides, cela n'a pas été si évident pour eux. Mais ce qui est sûr et ce qui est important, c'est qu'ils l'ont retrouvé. Je voudrais vous dire que Jésus, vous le trouverez aussi, dans certains endroits et pas dans d'autres. Jésus, vous le trouverez lorsqu'il est annoncé. Lorsqu'il est annoncé tel qu'il est, comme le Sauveur du monde, celui qui a donné sa vie sur la croix, le Dieu manifesté en chair, cette prédication vous permettra de le découvrir. C'est là qu'il se fait connaître. Jésus, vous le trouverez là où deux ou trois sont assemblés en son nom, parce que Jésus a dit « Je suis au milieu d'eux ». Jésus manifeste sa présence, là où son Église se rassemble, là où des chrétiens se rassemblent, autour de sa personne, et qu'on le met à l'honneur. Jésus, vous le trouverez là où l'on parle de lui, c'est-à-dire dans l'Évangile. Si vous lisez l'Évangile avec un cœur ouvert, vous le découvrirez. Jésus, vous le découvrirez en regardant la croix. La croix est un supplice repoussant, mais c'est là où Jésus a manifesté son amour. Et c'est là où Jésus a satisfait la justice de Dieu. Je résume ces quelques étapes. Cessez de vous laisser distraire et venez à l'essentiel. Sortez de vos illusions et des mensonges qu'on vous a fait croire. Vous êtes pécheur, vous êtes perdu et vous avez besoin de Jésus-Christ. Mettez-vous à la recherche de Jésus et vous le trouverez au contact de l'Évangile, notamment en considérant ce qu'il a fait à la croix pour vous. Faites demi-tour, quittez ces voies où Jésus n'est pas, détournez-vous de vos péchés et prenez la voie qu'il vous montre. Seigneur, je veux prier pour ceux qui entendent ce message. Et je veux prier pour qu'ils prennent conscience de leur état. Je veux prier pour qu'ils puissent cesser d'être distraits et vraiment se pencher sur l'essentiel. Que la pensée de l'éternité puisse être réveillée dans leur cœur. Qu'ils puissent réaliser qu'ils sont pécheurs, qu'ils puissent faire demi-tour et prendre le chemin qui mène à Jésus-Christ. Qu'ils te découvrent, Seigneur, en regardant à la croix. Jésus a manifesté son amour. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, manifeste ta grâce, produis la repentance dans ces moments, dans le cœur de ceux qui ont écouté ce message. Dans le nom de Jésus. Amen.